Le campement de Robert d'Artois ne ressemblait en rien à celui du comte de Poitiers. De ce côté-là, en dépit de la pluie, ce n'était que mouvement, agitation, rumeur, allée et venue dans un désordre si général qu'il paraissait voulu. Le lieu donnait l'image d'un marché en plein vent, plus que d'une place de guerre. Des relents de cuir mouillé, de vin suri, de purin, d'excréments, offensaient un peu le nez. D'Artois avait loué aux marchands qui accompagnaient l'armée une partie des champs affectés à sa bannière. Qui souhaitait acheter un baudrier neuf, remplacer la boucle de son aume, se procurer des protège-coups en fer ou simplement lamper un gobelet de cervoise ou de piquette, devait venir là. Le désœuvrement chez le soldat favorise la dépense. On tenait foire devant la portière de Messire Robert, qui s'était arrangé pour attirer également dans son coin les filles folieuses, si bien qu'il en pouvait faire libéralité à ses amis. Quant aux archers, arbalétriers, palefreniers, valets d'armes et goujats, ils avaient été repoussés et s'abritaient sous des feuillets qu'ils avaient construites, ou bien sous les chariots. À l'intérieur de la tente rouge, on ne parlait guère poésie. Un tonneau de vin y était constamment en perse, les cruches circulaient au milieu du vacarme, les dés roulaient sur le couvercle des coffres. L'argent se jouait sur parole, et plus d'un chevalier avait déjà perdu ce que lui aurait coûté sa rançon en bataille. Alors que Robert ne commandait qu'aux troupes de Conches et de Beaumont-le-Roger, un grand nombre de chevaliers d'Artois, qui dépendaient de la bannière de la comtesse Mao, se trouvaient en permanence chez lui, où il n'avait, militairement parlant, rien à faire. Adossé au mât central, Robert d'Artois dominait de sa taille colossale toute cette turbulence. Le nez bref, les joues plus larges que le front, et ses cheveux de lion rejetés en arrière sur sa côte écarlate, il jonglait négligemment avec une masse d'armes. Pourtant, il y avait une fêlure dans l'âme du géant, et ce n'était pas sans motif qu'il désirait s'étourdir de boissons et de bruit. « Aux miens, les batailles de Flandre ne valent guère », confiait-il au seigneur qui l'entourait. « Mon père, le comte Philippe, que beaucoup de vous ont bien connu et fidèlement servi, « oui, nous l'avons connu. C'était un preux homme, un vaillant !» répondaient les barons d'Artois. « Mon père fut blessé à mort au combat de Furnes. C'est dans son trèfle que nous sommes, » disait Robert, accompagnant ses mots d'un large geste circulaire. « Et mon grand-père, le comte Robert, oh, le brave, le bon suzerain que c'était, respectant nos bonnes coutumes, jamais en vain, on ne lui demandait justice. 4 années après, le voilà raide navré à Courtrai. » Jamais les deux ne s'en vont sans le troisième. Demain, peut-être, messeigneurs, vous me porterez en terre. Il est 2 sortes de superstitieux. Ceux qui n'évoquent jamais le malheur de peur de l'attirer, et ceux qui espèrent le détourner en lui accordant un tribut de parole. Robert d'Artois était de la seconde espèce.
Comment ? Verse-moi un autre gobelet et buvons à mon dernier jour !
Cria-t-il.
« Nous ne voulons point. Nous vous ferons rempart de notre corps !» répondirent les chevaliers artésiens. « Qui donc, hormis vous, défend nos droits ?»
Ils le considéraient comme leur suzerain naturel et l'idolâtraient un peu pour sa taille, sa force, son appétit, ses largesses. Tous rêvaient de lui ressembler, tous s'appliquaient à l'imiter.
« Or, voyez, mes bons seigneurs, comme on est récompensé de tant de sang versé pour le royaume » reprit-il. « Parce que mon grand-père est mort après mon père, oui, pour cela, le roi Philippe en a pris occasion de me faire tort de mon héritage et de donner l'Artois à ma tante Mao, qui vous traite si bien avec l'aide de tous ces hirsons, le chancelier, le trésorier et tous les autres, qui vous écrasent de redevances et vous refusent vos droits. Si nous allons demain en bataille et qu'un hirson se trouve à portée de ma lance, je lui promets quelques coups qui ne viendra pas forcément des Flamands. »
déclara un gaillard aux gros sourcils roux qui s'appelait le sire de Soistre. Robert d'Artois, en dépit de ce qu'il buvait, gardait la tête claire. Tout ce vin distribué, les filles offertes et tant d'argent dépensé avaient leur raison. Le géant travaillait à avancer ses affaires.
« mes nobles sires !» dit-il. « D'abord la guerre du roi, dont nous sommes les loyaux sujets et qui, pour l'heure, je vous l'assure, est tout acquis à vos justes doléances. Mais, une fois la guerre achevée, alors, mes seigneurs, je vous donne conseil de ne point vous désarmer. C'est une bonne occasion que vous avez là d'être en troupe, avec vos gens réunis. Rentrez ainsi en Artois et parcourez le pays pour chasser les agents de Mao et les fesser au cul sur la place des Bourgs. Et moi, je vous appuierai à la chambre du roi et reprendrai s'il le faut mon procès en appel du jugement qui m'a lésé. Et je m'engage à restaurer vos coutumes comme elles étaient au temps de mes pères. Ainsi ferons-nous, messire Robert, ainsi ferons-nous. Soistre ouvrit les bras. « Jurons, s'écria-t-il, de ne point nous séparer avant qu'il n'ait été fait droit à nos requêtes et que notre bon sire Robert ne nous ait été rendu pour être notre comte. Nous le jurons !» répondirent les barons. Il y eut force embrassade et encore de grandes rasades versées, et l'on alluma les flambeaux parce que le jour baissait. Robert se réjouissait de voir la ligue d'Artois qu'il avait fomentée si bien prête à l'action. C'eût été sottise, vraiment, que de mourir le lendemain. À ce moment, un écuyer pénétra dans la tente en disant « Monseigneur Robert, les chefs de bannière sont requissés en haute trève du roi. » Quand d'Artois entra sans hâte chez le roi, la plupart des grands seigneurs déjà s'y trouvaient, assis en cercle pour ouïr le connétable. Beaucoup ne s'étaient lavés ni rasés depuis 6 jours. Ordinairement, ils n'auraient jamais passé tant si long sans aller aux étuves, mais la crasse faisait partie de la guerre. Lassé de devoir répéter les mêmes évidences, Gaucher de Châtillon fut bref et presque impertinent à l'égard du souverain. Ce roitelet, décidément, ne lui convenait guère, qui tranchait seul sur les sujets qui eussent mérité conseil et tenait assemblée lorsqu'il eût dû ordonner. Gaucher avait été habitué à d'autres méthodes, où le commandement des troupes ne constituait pas matière à délibérer. Étalant sa cotte de soie bleue sur ses genoux, Valois commença de pérorer.
« Il est vrai, sire mon neveu, comme Gaucher vient de le confirmer, qu'on ne peut davantage rester en ce lieu où tout s'abîme à la fois, l'âme des hommes et le poil des chevaux. L'inaction nous gâche autant que la pluie. »
Il s'interrompit parce que le roi s'était retourné et parlait à Mathieu de Try, son chambellan. Le hutin réclamait seulement qu'on lui passât son drageoir. Les difficultés lui inspiraient le besoin de sucer ou de croquer quelques sucreries.
« Poursuivez, mon oncle, je vous prie, » dit-il.
« Il faut déloger demain tôt le matin, » reprit Valois, « trouver un passage à la rivière en amont et courir sus aux flamands pour les culbuter avant le soir. » « Avec des hommes sans vivres, des montures sans fourrage ?» dit le connétable. « La victoire leur remplira le ventre. Ils peuvent tenir encore une journée. C'est le jour d'après qu'il sera trop tard. Et moi, je vous réponds que vous allez vous faire tailler ou vous faire noyer. Il faut, si vous m'en croyez, retirer l'armée sur une hauteur vers Tournai ou Saint-Amand. Laissez les viandes nous parvenir, les eaux s'écouler.
« On voit bien, cousin, » dit Valois, « que vous touchez 100 livres la journée quand le roi chevauche avec l'ost et que vous vous souciez peu de voir finir la guerre. »
Le ton voulait être celui de la boutade, mais le connétable, blessé au vif, répliqua.
« Je suis au devoir de vous rappeler, cousin, que même le roi ne peut marcher sus à l'ennemi sans que le connétable en ait donné l'ordre. Et cet ordre, en l'état présent, je ne le donnerai point. Ce faisant, le roi peut toujours changer de connétable. »
Un pénible silence s'ensuivit. L'affaire prenait un mauvais tour. Pour complaire à Valois, Louis X allait-il révoquer le chef des armées comme il avait destitué Marigny et tous les légistes de Philippe le Bel? Le comte de Poitiers immédiatement intervint.
« Mon frère, je partage entièrement le conseil de Gaucher. Nos troupes ne sont point en mesure de combattre sans s'être restaurées une bonne semaine. »«
C'est aussi mon avis, » dit le comte Louis d'Evreux.
« Alors on ne châtiera donc jamais ces flamands ?»
s'écria Charles de la Marche qui se plaisait à copier Valois. Le connétable eut pour le plus jeune frère du roi un regard de mépris. L'oison, comme l'appelait sa propre mère, la reine Jeanne, avait parlé. Sur quoi, le comte de Champagne annonça qu'il s'en irait si on ne livrait pas bataille le lendemain. Ses chevaliers s'agitaient trop, et de toute manière, il ne les avait levés que pour 2 semaines. Valois écarta ses mains chargées de bagues comme pour dire
« Vous voyez !»
Mais il semblait déjà moins convaincu, et seul l'amour-propre l'empêchait de revenir sur ses opinions belliqueuses.
« Retraite ou défaite, sire, voilà le choix, » dit Gaucher.
Le roi ne donnait toujours pas signe de savoir à quelle partie se résoudre. Toute cette équipée ne faisait de sens pour lui que rapidement mener. Prendre la décision de la sagesse, se regrouper ailleurs, attendre, c'était repousser d'autant l'heure de son mariage et obérer un peu plus ses finances. Quant à prétendre franchir une rivière en crue et charger au galop dans la boue, au vrai, il avait pensé qu'il ne serait pas obligé de charger et que les Flamands céderaient devant le seul déploiement d'un hoste si formidable. Robert d'Artois, qui se tenait assis derrière Valois, se pencha vers celui-ci et lui murmura quelques mots. Valois approuva de la tête d'un air indifférent. Qu'on fît ce qu'on voudrait, il se retirait du débat. Robert alors se leva et, s'avançant de trois pas pour mieux dominer l'assemblée,
« Sire, mon cousin, dit-il, je devine votre souci. Vous n'avez point assez de moyens d'argent pour maintenir ce grand toast à ne rien faire. En outre, votre nouvelle épouse vous attend, que nous avons tous hâte à voir reine, comme nous avons hâte à vous voir sacrée. Mon conseil est qu'il ne faut point s'obstiner. Ce n'est pas l'ennemi qui nous oblige à rebrousser. C'est cette pluie où je vois la volonté de Dieu, devant laquelle tout un chacun, si puissant qu'il soit, doit s'incliner. Notre Seigneur, sans doute, vous signifie ainsi de ne pas combattre avant d'avoir été oint des saintes huiles. Vous tirerez autant de gloire, mon cousin, d'un beau sacre que d'une bataille aventureuse. Renoncez donc pour le moment à châtier ces mauvais flamands, et si la peur que vous leur avez inspirée ne suffit point, revenons en même nombre au prochain printemps. »
Dans l'embarras où l'on piétinait, cette solution radicale, celle du renoncement, proposée par un homme dont on ne pouvait suspecter le courage aux armes, reçut l'assentiment d'une grande partie des barons, et tout d'abord celui du roi. Montrant une fois de plus son manque de pondération, Louis X se rua avec empressement et reconnaissance dans l'échappée que d'Artois lui découvrait.
« Mon cousin, vous avez parlé sagement, » déclara-t-il. « Le ciel nous manifeste son avertissement. Que l'armée reparte donc, puisqu'elle ne peut poursuivre. »
Puis, enflant la voix pour se donner de la majesté, il ajouta.
« Mais je jure Dieu que si je suis encore en vie l'an prochain, j'irai envahir les Flamands et n'aurai avec eux nulle accordance qu'ils ne s'abandonnent en tout à ma volonté. »
Il n'eut plus alors d'autre souci que de déloger. Il fallut au connétable et à Philippe de Poitiers beaucoup d'insistance pour le convaincre de mesures indispensables, comme de maintenir au moins quelques garnisons le long de la frontière de Flandre. Il ne les entendait plus. Il était déjà parti. Dans cette dispersion, Valois trouvait son compte. Il avait maintenu à peu de frais sa réputation héroïque. D'Artois y trouvait le sien mieux encore. La guerre manquée profitait à sa ligue. Telle était la hâte du roi qu'elle se fit contagieuse et que le lendemain matin, faute de charroi et de pouvoir extraire de la boue tout le matériel, on mit le feu aux tentes, aux meubles, à l'équipement. L'appétit de destruction se soulageait ainsi. Laissant derrière elle, sur de vastes espaces, des embrasements fumeux qui luttaient contre l'éternelle pluie, l'armée, fourbue et affamée, se présenta au soir devant Tournai. Les habitants effrayés fermèrent les portes de la ville. On n'exigea pas qu'ils les ouvrissent. Le roi alla demander asile dans un monastère. Le surlendemain, 7 août, il était à Soissons, d'où il signa les ordonnances qui mettaient fin à la campagne. Il chargea Valois des préparatifs du sacre et envoya Philippe de Poitiers à Saint-Denis, afin d'y rendre l'oriflamme et d'y prendre l'épée et la couronne. Les princes se retrouveraient entre Reims et Troyes pour se porter au devant de Clémence de Hongrie. 14 jours avaient suffi à Louis Hutin pour déposer dans la corbeille de ses secondes noces l'inoubliable ridicule de l'expédition par lui conduite et qu'on ne désignait déjà plus que sous le nom d'Ost Boueux.